Depuis le début du XXe siècle, la population d'ours bruns dans les Pyrénées n'a cessé de baisser pour ne plus représenter qu'un petit noyau d'individus. Seules quelques réintroductions ont permis dans la partie centrale des Pyrénées de maintenir la présence de cet animal sauvage. Une population qui reste cependant l'une des plus menacées d'Europe du fait de son isolement. L'ours brun est même classé en France en danger critique d'extinction. Il reste environ 60 000 ours en Europe et les animaux qui ont été réintroduits en France à la fin des années 90 et en 2006 provenaient tous de Slovénie, un lieu privilégié pour l'observation du plantigrade. C'est dans les Balkans que le naturaliste Jacques Yeuzet a passé des jours et des nuits en pleine forêt à attendre l'ours brun. Sa patience a été récompensée et ses rencontres avec l'ours font aujourd'hui l'objet d'un livre de photos qui paraît aux éditions de la Salamandre. Il est l'invité de la Tête au Carré. Bonjour à vous.
Bonjour Mathieu.
Bienvenue. Lune de miel à l'affût de l'ours sauvage. C'est donc ce livre que vous publiez, Jacques Yeuzet, qui témoigne de vos rencontres avec l'ours brun. Une véritable prouesse lorsque l'on sait à quel point il est difficile de voir ce carnivore peureux et méfiant. Et puis nous sommes en ligne en duplex depuis France Bleu Béarn avec Jean Lauzet. Bonjour à vous.
Bonjour.
Jean Lauzet, vous enseignez les mathématiques et vous êtes membre du réseau Ours Brun et vice-président de CEPENSO Béarn, qui est la fédération des sociétés pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest. On va parler évidemment avec vous du cas particulier des ours dans les Pyrénées. On va donc se retrouver dans un instant pour ce dossier pas si mal léché. Et vous pouvez nous rejoindre dès maintenant avec toutes vos questions et vos messages sur franceinter.fr et également sur les réseaux sociaux avec le mot-clé l'attaque. Nous terminerons cette Tête au Carré avec le quiz, deux nouvelles questions scientifiques avec Florence Porcel. Violaine Ballet réalise cette émission qui a été préparée par Louis Chevillard.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Et comme nous sommes jeudi, nous accueillons Sophie Bécherel. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Vous nous parlez aujourd'hui de la dépression et d'une nouvelle étude qui met en lumière son impact sur les capacités psychomotrices.
Oui, cette étude menée par le professeur Philippe Gorwood, chercheur à l'INSERM et médecin à l'hôpital Sainte-Anne, a étudié plus de 2000 patients. Ils avaient tous connu 1 à 5 épisodes dépressifs au cours de leur vie. La dépression, vous le savez, n'est pas un simple coup de déprime. Les signes cliniques répondent désormais à des standards internationaux de psychiatrie. La tristesse permanente, la perte d'appétit, d'envie ou de libido notamment, font partie de ces signes, mais aussi l'altération des fonctions intellectuelles. Cette pathologie est extrêmement fréquente. 15% de la population est concernée, c'est-à-dire qu'elle a été, qu'elle est ou qu'elle sera touchée par la dépression. Mais pire que ça, le risque de chute est important puisque si on a déjà fait une dépression, le risque d'en faire une deuxième est de 50%. Si on a fait deux dépressions, le risque d'en faire une troisième est de 70%. Au-delà de 10 épisodes dépressifs, on sait qu'il y en aura forcément un onzième.
Donc c'est inquiétant ce taux de rechute à répétition?
Bien évidemment, d'où l'idée de les prévenir et le sens de cette recherche. Alors revenons-y. L'étude publiée dans European Neuropsychopharmacology a donc permis de suivre 2000 patients, je vous le disais, avant une dépression et après le traitement. Les médecins ont demandé aux personnes de réaliser une tâche toute simple, relier par un trait des cercles numérotés et placés dans le désordre sur une feuille. Juste après la dépression, le temps nécessaire pour réaliser ce test est de 35 secondes. C'est à peu près la même chose quand on a fait un deuxième épisode dépressif. Mais en revanche, quand on est au-delà de 3 ou plus d'épisodes dépressifs, ce temps se rallonge considérablement, 1 minute 20.
Qu'en déduisent donc les chercheurs, Sophie?
Pour Philippe Gorwood, c'est le signe que la dépression a des effets neurotoxiques sur notre cerveau. En effet, après un traitement chimique, par antidépresseur ou physique, avec des électrochocs, on comprend pourquoi le malade va mieux. En fait, c'est parce que le cerveau a récupéré de la plasticité cérébrale, il a reconstitué des réseaux de neurones, alors que le stress généré par la dépression, lui, aboutit à l'apoptose, la mort des cellules, sous l'effet neurotoxique du cortisol. Le cerveau marche moins bien, en particulier pour les fonctions cognitives. Et dans le classement des cercles, il faut évidemment être attentif, concentré, rapide.
Alors, ça n'explique pas pourquoi les rechutes sont aussi fréquentes. Pourquoi un épisode dépressif semble en appeler un autre?
Voilà. Alors, pour expliquer cela, Philippe Gorwood parle de l'effet cercle vicieux. Comme la dépression affecte les fonctions cognitives, on est moins rapide, moins concentré, moins efficace. Et l'estime de soi diminue. Après un arrêt du travail, par exemple, quand on reprend le travail, l'activité, ça ne va pas aussi bien et on devient de très vulnérables finalement au moindre stress que l'on doit confronter. D'où l'importance, dit le médecin, de bien traiter la dépression. Ces trois messages sont les suivants. N'attendez pas plusieurs mois, voire un an avant de vous faire traiter. Traitez-vous complètement, c'est-à-dire allez au bout du traitement. Et surtout, sachez dire stop aux rechutes en adoptant un traitement préventif. Car vous l'aurez compris, la dépression laisse des cicatrices dans le cerveau, des cicatrices qui ne demandent qu'à se rouvrir.
Voilà, publication donc qui vient tout juste de paraître. Sophie, il y aura une journée mondiale de la dépression. D'ailleurs, ce sera le 27 octobre prochain, si mes souvenirs sont bons.
C'est ça, à la fin du mois.
Et on organisera une tête au carré autour de ce thème. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Allez, l'ours brun dans notre dossier dans quelques instants. L'ours brun d'Europe avec toutes vos questions, franceinter.fr. Et c'est Tom Tom Club à l'instant sur France Inter.
Mathieu Vidard.
Ce qu'il lui faut, c'est un peu de chaleur humaine.
Jusqu'à 15h.
Je m'en occupe.
Sur France Inter.
L'ours brun d'Europe dans notre tête au carré cet après-midi avec mes invités, le naturaliste et photographe Jacques Yauzet qui publie donc Lune de miel, un ouvrage de photos aux éditions de la Salamandre, et Jean Lauzet qui est avec nous en duplex de France Bleu Béarn et qui est membre du réseau Ours Brun et vice-président de Cépenceau Béarn. Vos questions arrivent déjà nombreuses, vos messages franceinter.fr et l'attaque EFI sur les réseaux. Jacques Yauzet, vous avez passé beaucoup de temps en forêt pour parvenir à prendre ces photos magnifiques qui sont dans votre livre et qui ont été réalisés principalement donc en Slovénie. Au départ, c'est un défi que vous vous êtes posé avec l'ours ?
C'était pas vraiment un défi, c'est-à-dire que la photographie pour moi c'était pas essentiel. J'avais surtout envie de voir des ours parce que pour moi l'ours est un animal magnifique. Je suis naturaliste, j'ai commencé par observer toutes les espèces, tout ce qui vit m'intéresse. Je me suis intéressé aux oiseaux, j'ai fait de la botanique, j'ai fait de l'herpétologie. Et puis les mammifères, j'ai commencé à m'y intéresser dans les années 80. Mmh. J'ai commencé aussi à potasser toute la littérature, tout ce qui était de Robert Reinhart. Ça m'a beaucoup marqué. Et puis évidemment, ça m'a aussi donné envie de voir des espèces plus spectaculaires. Et j'ai commencé par des blaireaux, je pense que c'est important de le dire. Les blaireaux, les renards, je pense qu'il y a, chaque espèce, c'est une progression quoi, finalement.
Ouais. Vers le plus gros, le plus imposant.
Voilà, le plus gros, le plus spectaculaire, le plus imposant, le plus... C'est quelque chose de difficile d'expliquer. Pourquoi l'ours, pourquoi je me suis intéressé à l'ours, c'est une progression, c'est aussi peut-être une lointaine, peut-être par atavisme aussi finalement, les humains il y a très longtemps sont toujours confrontés à l'ours. Alors, il y a un petit peu de tout ça. Je me suis intéressé.
Vous aviez envie de vous y frotter, donc.
Voilà, j'ai envie de m'y frotter.
Il a fallu beaucoup de patience aussi pour le trouver la toute première fois.
Alors oui, il a fallu parcourir un certain nombre de pays. L'histoire a commencé en Suède, ensuite en Finlande. Ensuite, on n'a pas réussi à observer les ours en Finlande parce qu'on essayait de les observer par nos propres moyens. Donc, j'ai pas essayé de faire des affûts. Il existe maintenant, ça n'existait pas à l'époque, mais il existe maintenant des affûts publics en Finlande où on paye pour observer les ours. Bon, j'y suis allé une fois, surtout dans l'espoir de voir des gloutons, en fait. Mais pour les ours, voilà, on essayait vraiment de les observer par nos propres moyens. Et puis, on est allé en Finlande, ça n'a pas marché. On a réessayé en Finlande, ça n'a toujours pas marché. Puis finalement, on a essayé... une fois en Slovénie, et puis là, on a eu une chance incroyable, si on peut dire, parce que finalement, on en était à beaucoup de tentatives.
Oui.
On a trouvé une carcasse de cerf qui était dans la forêt, qui avait été en partie dévorée par l'ours. On a installé un affût, et puis l'ours est revenu à la Lune. C'était absolument extraordinaire. Ça a été la toute première observation.
Et à ce moment-là, vous vous êtes dit, il faut absolument que je les prenne en photo et que je puisse rester de longs moments dans ce milieu pour les observer.
Non, ce n'était pas tellement la question de faire de la photo. Je faisais de la photographie, mais pour moi, c'était beaucoup plus important de les voir. Mmh. C'était les observer, c'est un moment tellement fort d'observer un ours dans la forêt à la nuit. Et je n'avais peut-être pas tellement au début ce besoin de faire de la photographie, d'immortaliser l'observation d'ours par la photo, parce que je relisais régulièrement les livres de Robert Reinhart dans lesquels il y avait des gravures d'ours, et puis ces gravures d'ours me rappelaient incroyablement les images d'ours que j'avais vues, qu'on avait vues dans la neige. Il y avait tout ce côté obscur, pénombre, les ombres dans la nuit, oui. Et puis c'est comme ça qu'on les voyait.
Et c'est ce que vous rendez aujourd'hui dans vos photos d'ailleurs. Hein.
C'est ce que j'ai essayé.
Il y a deux façons en fait, hein. Deux propositions dans ce livre, à la fois vraiment des photos naturalistes, où on voit vraiment l'ours dans son habitat naturel, dans son décor habituel, et puis ces photos plus artistiques encore, qui sont à la fin de l'ouvrage.
Voilà, il y a à peu près la moitié d'images en couleur, et puis l'autre moitié sont des images que j'ai réalisées à la lumière de la Lune. Mm-hmm. Ça, ce sont les toutes dernières. J'ai vraiment essayé de travailler uniquement avec la lumière de la Lune, ouais. Mais bon, c'est difficile, parce qu'évidemment, même avec des capteurs en numérique, des capteurs de haute sensibilité, il faut quand même des pauses de 1 à 2 secondes pendant lesquelles l'ours ne bouge pas. Et puis j'ai aussi mis au point avec des amis un système d'éclairage en infrarouge qui a permis de réaliser des images en noir et blanc. Donc toutes ces images qui sont dans l'obscurité sont des images qui sont réalisées.
Ça donne des ambiances terribles. Hein. Est-ce que c'est ce que vous vivez vous dans la nuit quand vous êtes à proximité de ces animaux?
Oui, absolument. Et c'est ça que j'ai essayé de rendre. Il y a des images qui sont très très épurées avec juste la silhouette de l'ours, avec juste on voit juste une ligne. Qui part, une vague qui va de la croupe à la bosse et puis qui donne tout à fait l'impression qu'on a quand on les observe à la Lune. Je n'aurais jamais pu réaliser ces images-là si je n'avais pas vu les ours ça à la Lune.
Ouais. À quelle distance vous êtes d'eux en général pour les photographier?
Alors ça dépend, j'aime bien faire des plans assez éloignés, donc quelquefois on peut les photographier à peut-être 50 mètres déjà dans la forêt, quoique avec les arbres, il y a toujours des problèmes de les voir entre les arbres, à plus de 50 mètres ça commence à devenir difficile, et puis on a eu les ours les plus proches, ben là je reviens de là-bas.
Vous étiez dans les balcons là encore
voilà,
hier.
C'est ça. Exactement, et puis là on a eu un ours qui était à 2 mètres de l'affût.
Ah oui seulement?
Oui, alors on entendait croquer, on avait mis des noix, et il est s'est approché tout près de l'affût et puis on ne le voyait pas parce qu'il faisait vraiment nuit noire. Oui. Et il y a eu de l'orage et c'était assez extraordinaire parce qu'on a vu l'ours dans les éclairs. C'est au moment où on avait les éclairs, on a pu voir qu'il était vraiment tout près de l'affût.
Il n'y avait pas de danger pour vous à cette distance ?
Non, absolument pas. Non. Je crains pas l'ours, mais...
Il peut charger quand même, hein ?
Oui, mais on est dans un affût, on est dans une petite cabane qu'on a montée dans la forêt. Et puis, il n'y a pas de danger. En réalité, il n'y a pas vraiment de danger non plus. Il n'y a pas de grand danger avec l'ours brun.
Ouais. Jacques Yauzet, je disais tout à l'heure dans la présentation, 60 000 individus sur le territoire européen. Vous êtes d'accord à peu près avec ce chiffre aujourd'hui ou pas ?
Je pense que ça inclut probablement la Russie.
Oui, absolument. Oui, oui. Ouais, ouais. C'est là qu'on en trouve le plus d'ailleurs. Hein.
Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, ouais.
En ce qui concerne les Pyrénées, Jean Lauzet, puisque vous êtes en ligne avec nous depuis le Béarn à Pau, combien est-ce qu'on trouve d'ours alors aujourd'hui ? On a un compte à peu près fidèle à la réalité ?
Oui, alors dans les Pyrénées, c'est une situation très contrastée. Il y a deux populations dans les Pyrénées. Il y en a une en Pyrénées centrales où il y a une petite trentaine d'individus et une autre en Pyrénées occidentales où il n'y a que deux mâles et qui est donc en voie d'extinction.
Oui, donc ça c'est tout le problème aujourd'hui évidemment pour cet animal, mais c'est un petit peu mieux que dans les années 90 quand même.
Au niveau des chiffres, oui, puisque dans les années 90 il y en avait 4 en tout, au plus bas, mais au niveau de l'avenir de ces ours dans les Pyrénées, c'est guère mieux, puisque donc sur la moitié de l'aire de répartition de l'espèce, c'est-à-dire la partie occidentale des Pyrénées, les ours vont disparaître, il n'y a que de mâles, donc là, on est sûr de ça. Mmh. Et pour les ours des Pyrénées centrales, ils sont menacés par la consanguinité déjà, puisque ce sont tous des descendants d'ours venus de Slovénie, d'ailleurs. Mmh. Et il y a simplement, tous les ours présents actuellement sont les descendants de 3 individus. Donc il y a déjà pas mal de consanguinité. Et à terme, les spécialistes estiment que ça devrait entraîner la disparition de cette population.
Mmh. Jean Lauzet, est-ce que vous pensez à l'ours Pyros, par exemple ?
Voilà, donc c'est un ours qui est assez monumental, venu de Slovénie. Lui, capturé là-bas en 97.
On l'appelle le Casanova des Pyrénées, paraît-il.
Mais ça illustre très bien le problème qu'il y a actuellement, c'est-à-dire que cet ours, qui est très très gros, et le mâle dominant, c'est comme ça que ça se passe chez les ours, c'est-à-dire que c'est lui qui féconde toutes les femelles de toutes les Pyrénées centrales.
Ah oui, il a
donc
du boulot quand même.
C'est quand même un noyau qui est assez étendu.
Oui.
Il fait, au printemps, il parcourt toutes les Pyrénées centrales et c'est lui qui se reproduit avec toutes les femelles. Alors, il y a un autre ours qui avait été réintroduit, toujours venu de Slovénie en 2008, et qui... C'est peut-être reproduit, mais on ne le sait pas encore. Mais là, il est mort cet été. Donc, voilà.
Et donc, Pyros porte bien son nom, effectivement, de Casanova des Pyrénées. Et je vous propose, Jacques Yauzet et Jean Lauzet, d'écouter l'extrait d'un documentaire qui, précisément, a été tourné en 1997 en Slovénie. Il s'agit de la capture de Pyros dans la réserve de la région de Kozevje. J'espère que je prononce bien le nom de cette réserve.
Kozevje.
Au moment, voilà, c'est beaucoup mieux en slovène, au moment de sa réintroduction dans les Pyrénées.
Ici, plus de 300 ours vivent en liberté et les ours importés dans les Pyrénées ont été prélevés sur les quotas de chasse en vigueur dans cette réserve slovène. Tout le site a été aménagé pour obliger l'ours à poser sa patte sur le piège. Le collet est calculé pour que l'animal ne se blesse pas. Et chaque piège est équipé d'un émetteur qui signalera éventuellement sa prise. L'attente ne sera pas longue. L'alerte se déclenchera le lendemain matin. Pyros, puisque les enfants des écoles l'ont appelé ainsi, sera piégé.
Peut-être mâle, mais peut-être une femelle.
Ton avis, elle est même colonie. Qu'on soit d'accord.
Sanitairement contrôlé, équipé d'un collier émetteur, empreinte relevée et après accord des autorités, Pyros fera donc le grand voyage vers les forêts pyrénéennes.
Merci.
We see you again.
Merci.
On a un ours, hein. On démarre de Slovénie.
Tu m'entends? On a un mâle de 230 kilos. Tu m'entends? Rendez-vous, si t'es disponible, demain à Mel, on sera en milieu de matinée.
Voilà, c'était en 1997 et effectivement, depuis, Pyros, 230 kilos, a bien fait son boulot. Il est toujours en vie, Jean Lauzet, hein, vous le confirmez?
Oui, certainement, dernière nouvelle, mais il vieillit. Le problème, c'est qu'il a presque trop bien fait son boulot, justement. C'est-à-dire qu'il a chassé les autres mâles et, oui. Et maintenant, tous les ours présents sont des fils, des petits-fils de Pyros.
Oui. Jacques Yauzet, en entendant le rugissement de cet ours, vous aviez les poils qui se dressaient littéralement sur les bras.
Oui, c'est ça. Effectivement, ça me rappelait des souvenirs. J'ai entendu des ours qui se battaient un jour tout près de l'affût. Et puis, c'était quelque chose de très spectaculaire. Au milieu de la nuit, il faisait nuit noire et puis deux femelles qui se battaient. Alors c'était incroyable, incroyable.
Ouais. Des questions des auditeurs. Victoire nous dit ceci. Pourquoi l'ours brun, qui a une bonne image, avec une démarche proche de l'homme et qui est plus populaire que le loup, plus opportuniste et plus adaptable, n'arrive pas à survivre et disparaît dans ses derniers refuges pyrénéens? C'est pour vous, Jean Lauzet, cette question.
Par rapport au loup, il a quand même l'inconvénient de se reproduire beaucoup moins vite. Et donc, ça freine énormément. Quelques loups, ils se reproduisent, ils font 5 ou 6 petits à chaque fois, bon, ça va beaucoup plus vite. Mmh. Alors que l'ours, bon, lui, c'est 2 petits en moyenne tous les 2 ou 3 ans, donc qui sont fragiles au départ, voilà, ça va très lentement, c'est très fragile, donc il en faudrait beaucoup plus pour avoir une population qui ne soit pas comme actuellement au bord de l'extinction.
Ouais, donc ça, c'est la cause principale du déclin de ces ours pour vous?
Alors, bien sûr, après, il y a le fait que dans les Pyrénées, ils aient été chassés d'abord légalement jusqu'aux années 50. Ensuite, il y a eu pas mal de braconnage, des empoisonnements. Et puis, après, voilà, certainement que les effets génétiques, à la fin, se sont fait sentir.
Oui, Jacques Yauzet, la chasse, l'empoisonnement des ours, ça, ce sont les causes principales du déclin partout sur le territoire européen aussi?
Probablement là où l'ours a décliné, oui. Et puis ensuite, quand on passe en dessous d'un certain seuil de population, là, il y a des problèmes de consanguinité, effectivement, qui font que les populations continuent à décliner, comme ça s'est passé aussi en Espagne. Mmh. Même scénario que dans les Pyrénées, avec 2 noyaux qui se séparent, et puis finalement, les populations séparées qui déclinent.
Oui. Jean Lauzet, une étude commanditée par le ministère de l'Écologie qui a été réalisée par le Muséum National d'Histoire Naturelle. Et dans un rapport donc très récent, le muséum indique qu'il est impératif d'introduire des ours en Pyrénées occidentales, car à terme, donc, si rien n'est fait, les conséquences de la consanguinité se feront sentir. Je crois qu'il recommande de réintroduire 6 ours dès maintenant, c'est ça?
Non, alors leur chiffre... C'est 10 femelles, je crois, 3 mâles, pour l'idéal. Après, ils disent, bon, si on ne peut pas, au moins 4 femelles.
Oui.
Bon, bien sûr, il en faudrait le plus possible, le plus rapidement possible, pour le noyau occidental, là, je parle. Mm-hmm. Voilà, parce que c'est vraiment, il faut considérer que dans les Pyrénées, actuellement, il y a 2 populations qui sont tout à fait différentes. Leur sort n'est pas lié. Il y a un noyau occidental, là, il n'y a que 2 mâles. Donc c'est sûr, il faut en réintroduire des femelles.
Oui.
Et il y a le noyau central, où même là, ils conseillent les spécialistes de réintroduire des ours, parce que génétiquement, il y a quelques soucis.
Alors, ils conseillent, mais est-ce que ça va être fait ou pas dans les années qui viennent? Ça en est où, là, exactement, dans la région?
Alors, pour l'instant, ça en est au point mort. C'est-à-dire que... On sait qu'en France, la démocratie s'arrête là où commencent les lobbies. On l'a bien vu avec le problème de l'écotaxe. Et donc, on se heurte ici, l'État se heurte au lobby agricole, qui a la raison de ne pas vouloir voir trop d'ours. Mais voilà, c'est malgré tout une obligation légale. Puis, on sait qu'il existe des moyens de faire cohabiter les ours et l'activité pastorale. Donc, il y a peut-être un petit espoir, j'ai oublié d'en parler, c'est que pour le noyau central versant espagnol, mais en fait c'est la même population, un mâle devrait être lâché au printemps prochain.
Jacques Yauzet, dans les Balkans, comment ça se passe la cohabitation homme-ours?
Le fait, c'est qu'il y a toujours eu une continuité, il n'y a pas eu de discontinuité comme c'est le cas dans les Pyrénées, où l'ours a disparu ou failli disparaître du noyau occidental. Donc là, c'est sûr qu'à un moment donné, les gens s'habituent au fait que l'ours est absent ou quasiment absent. Mmh. Et puis, c'est évidemment mal perçu au moment où on réintroduit les ours. Alors que dans les Balkans, il y a une continuité. Les gens ont l'habitude de vivre avec les ours. Ça fait partie de leur quotidien.
Mmh. La chasse est autorisée là-bas ou pas?
La chasse est autorisée. Et puis, l'ours a été géré pendant de très longues années sous Tito. La chasse à l'ours a été gérée. Enfin, l'ours a été géré pour pouvoir effectuer des prélèvements cynégétiques, des prélèvements par la chasse. Donc à l'époque, il y avait Tito, il y avait Ceausescu en Roumanie et puis Brejnev qui étaient les trois présidents qui chassaient l'ours et c'était à qui tirait l'ours le plus gros. Donc ces ours ont été préservés vraiment dans un but cynégétique, mm-hmm. ce qui est complètement différent, une situation complètement différente de celle qui est en France.
Allez, Jacques Yeuzet et Jean Lezet, on vous retrouve dans un instant. Beaucoup de questions pour vous, je vous les transmets dans quelques minutes.
Au jeu de la vie épanouie, c'est du tirage au sort. Ça te dirait qu'on taille dans la nuit, façon chasse au trésor. Je nous pousserais des ailes, on prendrait mon fils qui dort. Je te promets pas le Ritz, mais du pastel plein le décor. Mort. À Shanghai ou à Paris, on s'occupe, on compte les scores. Viens qu'on trouve une rade, direction sud ou nord. Où les mouettes bavardent, voiliers sur le port.
Jeu de la vie, Mokayesh sur Inter.
La tête carrée sur France Inter.
Jacques Yeuzet est naturaliste suisse et photographe. Lune de miel à l'affût de l'ours sauvage. Donc ça paraît en librairie aujourd'hui même et puis aux éditions de La Salamandre. Le livre est également disponible sur le site de cette revue nature, lasalamandre.net. Et puis Jean Lezet est avec nous depuis les studios de France Bleu Pau-Béarn avec toutes vos questions sur franceinter.fr et sur l'attaque FI. Alors vous nous gratifiez d'une magnifique photo de crotte d'ours. Jacques Yeuzet, très très belle, il faut absolument la décrire, la faire partager à nos auditeurs. Pourquoi cette photo donc dans le livre?
Cette image, parce qu'on y voit très très nettement les faines, c'était une image que j'ai réalisée en 2012, qui était une année avec une faine exceptionnelle. Donc les hêtres avaient fructifié en tonnes par tonnes. Et les ours, à ce moment-là, ont consommé des faines et consommé, ils n'ont fait que ça. Ils ont consommé des faines tard dans l'automne et ils ont consommé des faines. Ils sont sortis d'hibernation relativement tôt aussi pour consommer ces faines. Donc là, on voit bien cette crotte qui est uniquement constituée de faines.
Voilà, donc une particularité en tout cas, hein, voilà, par rapport à ce que vous voyez d'habitude.
Oui, puisqu'on pense quelquefois que l'ours est plutôt carnivore, alors qu'en fait, oui, il est carnivore par sa dentition, il est classé dans les carnivores. En réalité, son régime alimentaire est beaucoup plus végétarien que carnivore.
Mmh. Quelques moutons à son menu, Jean Lauzet, ou pas?
Oui, bien sûr, c'est le problème. Alors, ce qui est dommage, c'est que sur une population d'ours, il y a à peu près je sais pas, 10% à la louche d'animaux qui vont s'intéresser plus particulièrement aux moutons. Mmh. Et ces 10%-là vont poser du tort à l'ensemble de l'espèce, puisque c'est eux qui vont attirer les foudres de tous les bergers contre l'ours, voilà, sur l'ours. Et donc, il y a cette année, à peu près moins de 200 brebis qui ont été tuées par les ours dans les Pyrénées, ce qui ne représente pas grand-chose. On a l'habitude de dire que bon, c'est moins de 1% de tout de la mortalité qui se produit chaque année dans les Pyrénées. Mais c'est vrai que pour des éleveurs, c'est toujours trop.
Voilà. Et du côté du miel, est-ce que ça pose des problèmes aux apiculteurs également, ce goût pour le miel de l'ours?
Alors, cette année, une ruche. Alors, je ne pense pas que ça va poser de gros problèmes. Une ruche sur l'ensemble des Pyrénées qui a été attaquée. Voilà. Parce qu'il existe tout simplement des méthodes pour se prémunir contre les attaques des ours.
Lesquelles?
Alors, bon, pour les ruches, il suffit de clôturer avec une clôture électrique. Ça, c'est relativement simple. Par exemple, après, pour les moutons, les brebis, là, c'est un peu plus difficile parce qu'il faut, la seule solution, c'est le gardiennage. Et donc, ça demande de la main-d'œuvre, ça demande d'avoir des chiens aussi, et c'est le problème auquel sont confrontés les éleveurs. Donc, il y a aussi des solutions qui sont proposées par l'État, hein, qui permet de financer des emplois d'éleveurs, de bergers, je veux dire. Voilà. Mais certains ne veulent pas entendre parler d'ours et donc refusent ces aides-là aussi. Donc c'est ça le nœud du problème actuellement dans les Pyrénées. C'est ce qui crée une hostilité envers l'ours. C'est le problème des dégâts sur les brebis.
Patrice nous dit sur franceinter.fr que ce soit pour l'ours ou pour le loup, il y a toujours une source de conflit fréquente entre éleveurs et ces animaux. Y a-t-il un pays modèle dont on pourrait s'inspirer, demande Patrice, concernant cette cohabitation? Et si oui, où et comment? Alors peut-être Jacques Yozet, est-ce que dans les Balkans, on a de bons exemples dont on pourrait s'inspirer?
Bon, dans les Balkans, les populations de loups, par exemple, sont gérées par la chasse. Il y a eu, dans la région où je vais, il y a eu assez récemment une vache qui a été attaquée par une meute de loups et la vache a été tuée. C'est une vache qui n'était pas de petite taille. Donc là, un loup a été tué. Il a d'ailleurs été tué illégalement par un chasseur, ce qui fait qu'il aura probablement une amende assez salée.
Et pour les ours?
Alors pour les ours sont très protégés, mais il y a relativement peu de dégâts sur le petit cheptel. Sur les moutons, sont en général dans les zones à ours, les moutons sont bien protégés. Mais c'est une situation qui est différente parce que les moutons sont dans les vallées, donc c'est différent de la situation des Pyrénées. Les moutons sont dans les vallées, dans les zones ouvertes, alors que dans les Pyrénées, ils sont au-dessus des zones boisées, dans les montagnes, donc probablement plus difficiles à protéger.
Jean-Paul nous dit 60 000 ours en Europe. Personnellement, je n'aimerais pas me retrouver en face d'une de ces bêtes en promenade forestière, mais il y a très peu de chance, hein, c'est ce que vous nous dites finalement. Hein. Ils sont extrêmement timides et c'est très rare de se retrouver nez à nez avec eux. Et puis la suite de son message, si on les veut, dit Jean-Paul, dans nos parages, soit on accepte le risque, moi pas, soit on réensauvage des régions entières aux risques et périls de qui veut s'y rendre. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre, Jean Lauzet, à ce message, à Jean-Paul?
Alors, d'abord, deux choses. Moi, je me promène très souvent dans les montagnes, dans toute l'Europe, pas que dans les montagnes d'ailleurs, parce que les ours ne vivent pas que dans les montagnes. Et dans l'espoir de voir des ours.
Ah oui, vous en avez beaucoup croisé sur votre route ou pas alors?
J'en croise régulièrement, oui. Et voilà, bon, les rares fois où vraiment je les ai croisés de très près, ça m'est arrivé jusqu'à 1m50. Chaque fois, la réaction de l'ours était la même, c'est-à-dire qu'il est parti au triple galop. Donc, il n'y a vraiment aucun danger à croiser des ours, enfin pas plus qu'avec un autre animal. Donc ça, c'était un faux problème. Après, le problème du réensauvagement qui serait nécessaire donc, à l'existence de l'ours dans les Pyrénées, ça aussi, c'est une vue de l'esprit. Donc pour voyager dans tous les pays d'Europe, les régions précisément où il y a des ours, j'ai constaté que les Pyrénées étaient vraiment très sauvages, entre guillemets, par rapport à bien des pays d'Europe où il y a beaucoup plus d'ours. Donc ce n'est pas un problème de sauvage. L'ours peut s'adapter très bien, pourrait survivre dans les Pyrénées et bien dans d'autres endroits de France d'ailleurs, qui sont largement assez sauvages pour accueillir une population d'ours.
Oui. Dans les Vosges ou dans le Jura, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu d'ours, hein, vous confirmez ?
Ah oui, alors là je vais vous poser pas si une colle, mais 18e peut-être pour les Vosges.
Et Jacques Yosé, dans le Jura ?
Ça fait très longtemps.
Dans le Jura, je sais que dans ma région, c'était vers 1814, le dernier ours a été tiré en 1814 à peu près, je crois.
Ouais. Et il n'y a jamais eu de volonté de réintroduire l'animal dans le massif jurassien par exemple ?
Non, il n'y a jamais eu.
Pour quelle raison ? Pourquoi on l'a fait dans les Pyrénées et pas dans le Jura ?
Parce que dans les Pyrénées, il y a encore une population existante, alors que dans le Jura, elle avait complètement disparu. Donc c'est déjà relativement difficile. On a vu avec le lynx, avec la réintroduction du lynx, on a vu déjà tous les conflits que ça générait. Pourtant, le lynx, finalement, ne fait que prélever un certain nombre de chamois, chevreuils que les chasseurs voudraient s'attribuer. Avec l'ours, je pense qu'il y aurait quand même nettement plus de conflits. Il y a quand même une densité de population dans le Jura qui est plus élevée, même que dans certaines régions du Jura, elle est assez faible. Mais globalement, il y a quand même plus de risques aussi, de risques d'accidents avec les ours, qui c'est souvent une source de mortalité, d'accidents avec les voitures.
Là, on voit dans votre livre justement une photo de famille avec une femelle, j'imagine, hein, et ses trois petits ici. Ça, c'est une photo, pareil, à quelle distance est-ce que vous étiez de l'animal et de ses petits ?
Là, j'étais à une dizaine de mètres.
Ouais. Il y a plus de risques justement lorsque la femelle est avec ses petits ?
En général, la femelle est extrêmement attentive, elle est toujours en train d'écouter, de sentir, et puis elle rappelle ses jeunes. Donc elle a un cri assez particulier que j'ai entendu normalement que chez les femelles, et ce printemps j'ai juste entendu un mâle qui émettait ce cri-là, c'est une espèce de... Ça, c'est le cri de ralliement pour rappeler les jeunes. Et puis, du coup, elle les a toujours. Aussitôt qu'elle entend qu'il y a un danger, qu'elle perçoit un danger, elle va tout de suite émettre ce cri pour essayer pour rassembler tout le monde et puis partir. C'est toujours la première réaction.
Ouais. À partir de quel âge les petits vont acquérir leur autonomie et quitter le foyer ?
Alors, ils sont souvent proches de la femelle. Dans les déplacements, ils sont toujours très, très proches de la femelle. Et puis, quand ils deviennent un petit peu plus âgés, ils prennent un petit peu plus d'indépendance. Et là, où j'étais dans les Balkans, on a observé une femelle avec un jeune de 3 ans. On pense qu'il a 3 ans parce qu'il est grand. Et c'est quelque chose de pas standard, c'est pas normal.
C'est le tanguy, comme on pourrait dire en France, de la famille ours, c'est ça ? C'est celui qui ne veut pas quitter le foyer ?
Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, normalement, les jeunes quittent leur mère quand ils ont à peu près 2 ans. Et puis, ce jeune est grand, il doit peser dans les 80 kilos maintenant. Et celui-là, il a énormément d'indépendance. Alors, on voyait quelquefois la femelle dans un coin de la forêt, et puis le jeune qui était à 150 mètres de là.
Sébastien nous dit sur franceinter.fr, dans les Balkans, surtout dans l'ex-Yougoslavie, on a l'habitude de mettre des charniers au printemps pour la chasse, pour l'observation. Est-ce qu'on ne crée pas une dépendance des ours vis-à-vis des charognes ? C'est sa question. Vous confirmez d'abord qu'on installe ces charniers ?
Alors ça ne se fait plus en Slovénie, ça se pratique encore en Croatie, puisque... je ne sais pas si ça se pratique encore maintenant, ça se pratiquait encore l'année passée, avant l'entrée de la Croatie dans l'Union européenne, mais comme l'Union européenne en principe interdit le dépôt de carcasses en forêt, enfin dans la nature, je pense que la Croatie devra aussi s'adapter à la loi européenne. Donc ça ne se fera plus, ça résout d'un côté la question. Ça se fera probablement encore en Bosnie ou dans d'autres anciennes républiques de l'ex-Yougoslavie. Est-ce qu'à créer une dépendance ? Pas vraiment, je pense, parce qu'une carcasse, elle est consommée relativement vite. Un cheval en forêt à l'époque, moi j'ai vécu ça au début où on allait là-bas, ça se pratiquait encore. Un cheval en forêt, c'est consommé en une semaine. Ça va relativement vite. Plusieurs ours viennent et puis ça part très vite. Donc il n'y a pas réellement de dépendance. Et puis dans la nature, on a aussi, comme au printemps passé, après qu'il y a l'hiver 2012-2013 a été extrêmement rude. Et là, il y avait un très grand nombre de carcasses d'ongulés et les ours en ont largement profité. Donc ça n'a pas créé de dépendance vis-à-vis de la viande. C'est ce que les gens croient souvent. Et puis ils pensent que voilà, un ours qui a mangé de la viande va forcément revenir manger de la viande.
Ouais. Est-ce que vous, en tant que photographe, ça vous arrive de mettre des appâts justement pour pouvoir être sûr de faire venir l'animal ?
De la viande ou des appâts?
Ah ben, ce que vous voulez.
Ah, mais... d'accord, oui. Alors, effectivement, oui, donc j'utilise la nourriture pour les faire venir. Parce que sinon, attendre un ours, bon, évidemment, je mets mes affûts, je les dispose dans les endroits où il y a des passages d'ours réguliers. Ça favorise les observations, mais pour pouvoir photographier les ours dans certaines, par exemple sur les images nocturnes, voilà, je dois mettre au point un éclairage, je dois attendre l'ours à tel endroit, donc il y a un petit peu de mise en scène dans le sens où
il n'y a pas de risque de perturber non plus l'animal dans ses habitudes, le fait de lui donner comme ça de la nourriture pour des photographies.
Alors il faut que la période pendant laquelle on met de la nourriture soit quand même limitée dans le temps, et puis que l'apport de nourriture soit raisonnable. Et là, ça ne pose pas de problème. Dans la nature, finalement, dans la nature ou dans l'environnement proche de la nature, verger par exemple, que les ours vont fréquenter, vous avez aussi tout à coup une abondance de nourriture importante. Et puis les ours vont aller là pendant un certain temps, profiter de cette abondance de nourriture. Il peut y avoir par exemple dans la forêt quelques hêtres qui vont fructifier énormément, alors que dans le reste de la forêt, il n'y a pas de faine. Et puis les ours vont se concentrer à cet endroit-là, mais ça reste pas un petit moment. Quoi.
Jean Lezay, une question de David. Quel est le rôle de l'ours dans l'écosystème ? Dans les Pyrénées, par exemple?
Oui, alors, c'est une question récurrente. Il n'a pas de rôle particulier. Hein, c'est-à-dire qu'on peut supprimer les ours, si c'est ça la question, et le milieu ne devrait pas être bouleversé. Mais après, il est là comme tous les autres animaux. Alors, il est au sommet de la chaîne. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'autres animaux qui en dépendent.
Gilles nous envoie ce petit... Oui,
ça m'étonne toujours cette question de l'utilité de l'ours, parce qu'il faudrait peut-être qu'on se la pose nous-mêmes. Quelle est notre utilité à nous, humains, sur cette planète? Ça serait une question très intéressante.
Gilles vous pose cette question. Qui n'y connaît rien en ours, nous dit-il, grizzly ou ours brun? Est-ce qu'on parle de la même bête ou pas?
Alors, oui, c'est exactement la même espèce. Oui, c'est la même espèce, sauf que le grizzly, c'est sur le continent... aux États-Unis, hein, continent américain, nord-américain. Mm-hmm. Alors que l'ours, enfin, chez nous, on n'appelle pas ça le grizzly, on appelle ça l'ours brun.
Voilà, donc c'est exactement le même animal, hein, celui que vous avez photographié et qu'on peut donc voir dans ce livre, Jacques Yeuzet, Lune de miel à l'affût de l'ours sauvage. C'est aux éditions La Salamandre, donc ce livre vient de paraître en librairie. Et puis il y a un autre ouvrage pour les amateurs de lynx, hein, qui vient lui aussi de sortir, c'est un copain à vous qui s'appelle Didier Pépin, La forêt du lynx, également aux éditions La Salamandre.
Ouais. Un livre magnifique avec aussi une des photos réalisées dans une approche naturaliste extraordinaire.
Et dans la même collection. Merci beaucoup à vous. Bon retour en Suisse et donc dans les Balkans pour voir d'autres ours, Jacques Yeuzet. Merci Jean Lezay. Merci aux équipes de France Bleu Pau Béarn. Merci beaucoup.
Who you gonna call when it's obvious, dear?
Connu sa voix, extrait de son dernier album Prince sur France Inter, Funk and Roll. De nouvelles questions scientifiques pour jouer ensemble, comme tous les jours en fin d'émission, c'est le quiz de la tête au carré. Florence Porcel est avec moi. Bonjour Florence.
Bonjour.
De nouveaux auditeurs, bien sûr, ils sont là, ils nous attendent.
Mais oui, bonjour Marjorie, bonjour Baptiste.
Bonjour.
Bonjour à tous les deux. Marjorie, vous habitez à Izot de l'Hôtel.
C'est ça.
C'est chouette ça, c'est comme joli. Nom de commune. Ça se trouve en Haute-Garonne.
C'est ça, dans le Piémont pyrénéen.
Et vous êtes éducatrice spécialisée.
C'est ça.
Face à vous, Baptiste, de Misson dans les Landes.
C'est ça.
Et vous êtes commercial, Baptiste.
Absolument.
Voilà, dans quel secteur exactement?
Dans le bricolage.
Vous faites beaucoup de routes tous les jours?
Pas mal, je dois faire à peu près 50 000 km par an.
Ah oui, pas mal.
Ah oui, quand même.
Donc c'est un moment propice pour écouter la tête au carré en voiture, ça je suis sûr.
Ben exactement.
On va jouer ensemble, beaucoup de questions vous attendent et des cadeaux bien sûr Florence.
Mais oui, on vous offre la boîte de jeu La Tête au Carré et un DVD, La Valse des Continents 2 chez Arte Éditions.
Marjorie Baptiste, je vous souhaite bonne chance, on va démarrer tout de suite avec la question d'actualité. Avec un matériau récemment mis au point par l'Université du Danemark du Sud qui permet d'absorber, de stocker, puis de libérer l'oxygène contenu dans l'air. Les internautes ont donné justement à ce matériau un surnom inspiré d'un super-héros. De quel super-héros s'agit-il? Vous avez 30 secondes. Il faut vraiment avoir suivi l'actualité pour le savoir.
Oui, hein.
Allez, tentez votre chance. Marjorie Baptiste. Alors, un super-héros, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous vient comme ça en tête?
Superman, Spider-Man,
non.
Batman.
Non, il est un peu moins connu, j'avoue.
Il est un peu moins connu, oui.
Voilà.
C'est un super-héros de comics également.
Voilà, qui aime beaucoup l'élément liquide.
Oui.
On va vous aider un
exactement.
Petit peu.
Exactement.
Mais il faut le connaître, celui-là.
Hein. Ouais.
Alors. Aquaman, est-ce que ça vous dit quelque chose, vous? Aquaman, voilà. Alors,
mais
c'est vrai qu'avant voilà. d'avoir vu cette question d'actualité, je n'avais jamais entendu parler d'Aquaman, Florence.
Ah mince,
alors,
je lis trop de comics. Bah, c'est un super-héros adapté à la vie sous-marine. Et les internautes ils l'ont surnommé plus précisément le cristal dont on parle, le cristal d'Aquaman, donc parce que ce matériau cristallin pourrait servir dans le domaine de la plongée sous-marine.
Voilà.
Quelques grains dans un masque pourraient suffire à respirer sous l'eau, mais il pourrait aussi avoir des applications dans le domaine de la santé pour traiter des patients atteint de maladies respiratoires, par exemple.
Bon, ben on ne remercie pas les internautes.
Donc non.
Mais on aura quand même appris quelque chose.
Exactement.
Aquaman
un
existe.
Super-héros.
Bon, Marjorie Baptiste, peu importe, vous êtes à égalité. Voici les questions de rapidité pour vous départager. 1 minute 30, 7 questions par ordre croissant de difficulté. Et si vous êtes prêts, on peut démarrer tout de suite.
Ok.
Allez, on lance le chrono. Quel célèbre réalisateur a réussi l'exploit de descendre en solo jusqu'au point le plus profond des océans?
James Cameron,
Marjorie. Comment s'appelle le principal pigment assimilateur des végétaux qui intervient dans la photosynthèse?
Chlorophylle,
Marjorie, bonne réponse. Quel est le nom savant des volcans de glace?
Des volcans de glace.
Voilà, pensez à la glace. Pensez au volcan et vous avez le mot, tout simplement.
Ice volcan.
Non.
Glacé.
Non. Allez, on passe à la question suivante. Qui a donné son nom au théorème affirmant qu'une droite parallèle à un côté d'un triangle sectionne ce dernier en triangle semblable. C'est un théorème.
Mais je crois que Baptiste l'a dit.
Oui, Baptiste, bonne réponse. Quel principal élément semi-conducteur compose les panneaux photovoltaïques ? Élément semi-conducteur dans
ces panneaux ?
Non.
Du verre ?
Non.
Mais c'est utilisé dans le verre.
Du fer ?
Non. Allez, sixième question. Quel animal de la même famille que les méduses vivant généralement en colonie possède son propre exosquelette ?
Le calmar ?
Non. On passe à la septième question ?
Mm-hmm.
Allez, quel informaticien et futurologue américain célèbre pour ses prédictions est considéré comme l'un des piliers du transhumanisme ? C'est la dernière question, c'est la plus compliquée. Non, pas Hubert Reeves, non. Je suis pas sûr que ça lui fasse plaisir, ça.
Non,
ah, Hubert Reeves. Alors, septième question. Donc, comment s'appelle cet informaticien, Florence, qui est considéré comme le père quasiment du transhumanisme?
Oui, il s'agit de Ray Kurzweil. Voilà, il est également entrepreneur, notamment dans la reconnaissance optique et vocale. Et il a rejoint Google en 2012 en tant que directeur de l'ingénierie.
Et effectivement, on entend beaucoup parler et de plus en plus de cet homme. Mmh. Alors, quel animal de la même famille que les méduses vivant généralement en colonie possède son propre exosquelette? Squelette, vous avez une magnifique barrière.
Oui, il s'agissait du corail, oui.
À l'est de l'Australie. Ouais. Quel principal élément semi-conducteur compose les panneaux photovoltaïques ?
Il s'agissait du silicium.
Et le nom savant des volcans de glace, c'était pas Ice Volcan ?
Mais bien tenté.
Le cryovolcan, absolument, Marjorie. Dommage. Bon, ça ne nous fait pas beaucoup de points, j'ai l'impression, ça, Florence.
Non, ça nous fait 10 pour Marjorie et 5 pour Baptiste.
Voilà, donc tout est possible encore avec le mot mystère. On peut inverser la tendance. Et nous allons commencer peut-être avec Marjorie.
Bah oui.
45 secondes, Marjorie, pour faire deviner donc à Baptiste le mot mystère que vous avez sous les yeux. Et c'est parti.
Alors, c'est l'ensemble des phénomènes conséquents à l'explosion d'une étoile. Donc ça provoque énormément de lumière, il y a une grosse explosion de lumière qui dure un bon moment. Voilà, c'est le nom qu'on donne à l'explosion d'une étoile.
Étoile massive. Pardon, Baptiste ?
Une implosion ?
Non, c'est vraiment le nom donné à cette étoile qui explose.
Ça développe énormément d'énergie. Voilà.
Il y en a de temps en temps, c'est assez rare.
Oui, c'est assez rare.
Dans notre galaxie, hein, ça se passe en général
une à trois
fois
par siècle. Voilà.
Alors Baptiste, est-ce que ça vous dit quelque chose ? On est vraiment autour vraiment du langage, du vocabulaire lié aux étoiles ?
Une très très grosse étoile qui explose.
Naine jaune, non ?
Non, c'était la supernova.
Ah ouais, la supernova.
Voilà. Allez, 45 secondes pour le dernier mot mystère. Et là, c'est vous, Baptiste, qui devez faire découvrir ce mot à Marjorie. Bonne chance, c'est parti.
Alors, ce sont des petites ampoules qui se développent énormément.
Des LED ?
Non.
Alors, non, ça en fait partie. On dit d'elles, oui, qu'elles sont électroluminescentes.
Voilà, bonne réponse Marjorie. Voilà, il fallait préciser effectivement avec les LED, on était dans le bon domaine, mais ça n'était pas la réponse exacte à ce tube électronique à deux électrodes qui est utilisé comme redresseur de courant.
Exactement.
Voilà, et qui apporte donc quelques points à Marjorie.
Ben, plus 10, ce qui nous fait 20 points en tout pour Marjorie qui remporte le jeu aujourd'hui. Toutes nos félicitations.
Merci beaucoup.
Voilà, à ISO de l'hôtel, eh bien, on va être ravis de vous célébrer Marjorie et en plus de vous envoyer la boîte de jeux de la tête au carré.
Mais oui, absolument, des éditions Marabout pour jouer en famille ou avec vos amis. Il y a 300 questions distribuées dans 150 cartes et vous repartez également avec le DVD La Valse des Continents 2 chez Arte Éditions. Voilà.
Super, merci beaucoup.
Félicitations. Baptiste, merci également d'avoir joué avec nous.
Et donc, merci à vous.
On se retrouve au hasard de vos pérégrinations, donc, hein,
exactement,
derrière le volant. Merci beaucoup.
Merci à tous.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.